Le lendemain, les renseignements de la préfecture confirmèrent ce que Lupin et Prasville savaient. Le marquis d'Albufex, très compromis dans l'affaire du canal, si compromis que le prince Napoléon avait dû lui retirer la direction de son bureau politique en France, le marquis d'Albufex ne soutenait le grand train de sa maison qu'à force d'expédients et d'emprunts. D'un autre côté, en ce qui concernait l'enlèvement de Daubrecq, il fut établi que, contrairement à son habitude quotidienne, le marquis n'avait pas paru au cercle de 6 à 7 heures et n'avait pas dîné chez lui. Il ne rentra ce soir-là que vers minuit et à pied. L'accusation de M. Nicole recevait ainsi un commencement de preuve. Malheureusement, et par ses moyens personnels, Lupin ne réussit pas davantage, il fut impossible de recueillir le moindre indice sur l'automobile, sur le chauffeur et sur les 4 personnages qui avaient pénétré dans l'hôtel de Daubrecq. Était-ce des associés du marquis compromis comme lui dans l'affaire? Était-ce des hommes à sa solde? On ne put le savoir. Il fallait donc concentrer toutes les recherches sur le marquis et sur les châteaux et habitations qu'il possédait à une certaine distance de Paris. Distance que, étant donné la vitesse moyenne d'une automobile et le temps d'arrêt nécessaire, on pouvait évaluer à 150 kilomètres. Or, d'Albufex, ayant tout vendu, ne possédait ni château ni habitation en province. On se retourna vers les parents et les amis intimes du marquis. Pouvait-il disposer de ce côté de quelques retraites sûres où emprisonner Daubrecq? Le résultat fut également négatif. Et les journées passaient. Et quelle journée pour Clarisse Mergy! Chacune d'elles rapprochait Gilbert de l'échéance terrible. Chacune d'elles était une fois de moins 24 heures avant la date qu'elle avait involontairement fixée dans son esprit. Et elle disait à Lupin que la même anxiété obsédait. « Encore 55 jours. Encore 50. Que peut-on faire en si peu de jours? Oh, je vous en prie, je vous en prie !» Que pouvait-on faire, en effet? Lupin, ne s'en remettant à personne du soin de surveiller le marquis, ne dormait pour ainsi dire plus. Mais le marquis avait repris sa vie régulière et, méfiant sans doute, ne se hasardait à aucune absence. Une seule fois, il alla dans la journée chez le duc de Montmort, dont l'équipage chassait le sanglier en forêt de Durlaine et avec lequel il n'entretenait que des relations sportives.
« Il n'y a pas à supposer, » dit Prasville, « que le richissime duc de Montmort, qui ne s'occupe que de ses terres et de ses chasses et ne fait pas de politique, se prête à la séquestration dans son château du député Daubrecq. »
Lupin fut de cet avis. Mais comme il ne voulait rien laisser au hasard, la semaine suivante, un matin, apercevant d'Albufex qui partait en tenue de cavalier, il le suivit jusqu'à la gare du Nord et prit le train en même temps que lui. Il descendit à la station d'Aumale, où d'Albufex trouva une voiture qui le conduisit vers le château de Montmort. Lupin déjeuna tranquillement, loua une bicyclette et parvint en vue du château au moment où les invités débouchaient du parc, en automobile ou à cheval. Le marquis d'Albufex se trouvait au nombre des cavaliers. 3 fois au cours de la journée, Lupin le revit qui galopait, et il le retrouva le soir à la station où d'Albufex se rendit à cheval, suivi d'un piqueur. L'épreuve était donc décisive, et il n'y avait rien de suspect de ce côté. Pourquoi cependant Lupin résolut-il de ne pas s'en tenir aux apparences? Et pourquoi le lendemain envoya-t-il le balu faire une enquête aux environs de Montmort? Surcroît de précaution qui ne reposait sur aucun raisonnement, mais qui concordait avec sa manière d'agir méthodique et minutieuse. Le surlendemain, il recevait de le balu, outre des informations sans intérêt, la liste de tous les invités, de tous les domestiques et de tous les gardes de Montmort. Un nom le frappa parmi ceux des piqueurs. Il télégraphia aussitôt. Se renseigner sur le piqueur Sébastiani. La réponse de Lebalu ne tarda pas. Sébastiani, Corse, a été recommandé au duc de Montmort par le marquis d'Albufex, Il habite à une lieue du château un pavillon de chasse élevé parmi les débris de la forteresse féodale qui fut le berceau de la famille de Montmort.
« Ça y est !» dit Lupin à Clarisse Mergy en lui montrant la lettre de Lebalu. « Tout de suite, ce nom de Sébastiani m'avait rappelé que d'Albufex est d'origine corse. Il y avait là un rapprochement.
« Alors, votre intention ?»«
Mon intention est, si Daubrecq se trouve enfermé dans ses ruines, d'entrer en communication avec lui. »«
Il se défiera de vous ?»«
Non. Ces jours-ci, sur les indications de la police, j'ai fini par découvrir les deux vieilles femmes qui ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain et qui, le soir même, voilées, l'ont ramené à Neuilly. Ce sont deux vieilles filles, les cousines de Daubrecq, qui reçoivent de lui une petite rente mensuelle. J'ai rendu visite à ces demoiselles Rousselot. Rappelez-vous leur nom et leur adresse. 134 bis rue du Bac. Je leur ai inspiré confiance. Je leur ai promis de retrouver leur cousin et bienfaiteur, et l'aînée, Euphrasie Rousselot, m'a remis une lettre, par quoi elle supplie Daubrecq de s'en rapporter absolument au sieur Nicole. Vous voyez que toutes les précautions sont prises. Je pars cette nuit.
Et nous partons.
Vous ?
Est-ce que je veux vivre ainsi, dans l'inaction, dans la fièvre ? Ce n'est plus les jours que je compte. Les 38 ou 40 jours ou plus qui nous restent, ce sont les heures.
Lupin sentit en elle une résolution trop violente pour qu'il essayât de la combattre. À 5 heures du matin, ils s'en allaient tous deux en automobile. Grognard les accompagnait. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Lupin choisit comme quartier général une grande ville. D'Amiens, où il installa Clarisse, il n'était séparé de Montmort que par une 30aine de kilomètres. Vers 8 heures, il retrouva Lebalu, non loin de l'ancienne forteresse, connue dans la région sous le nom de Mortepierre, et dirigé par lui, il examina les lieux. Sur les confins de la forêt, la petite rivière du Ligier qui s'est creusée à cet endroit, une vallée très profonde forme une boucle que domine l'énorme falaise de Mortepierre.
Rien à faire de ce côté. La falaise est abrupte, haute de 60 ou 70 mètres, et la rivière l'enserre de toutes parts.
Ils trouvèrent plus loin un pont qui aboutissait au bas d'un sentier dont les lacets les conduisirent, parmi les sapins et les chênes, jusqu'à une petite esplanade où se dressait une porte massive, bardée de fer, hérissée de clous et flanquée de 2 grosses tours.
« C'est bien là que le piqueur Sébastiani habite ?»«
Oui, » fit le balu, « avec sa femme, dans un pavillon situé au milieu des ruines. J'ai appris en outre qu'il avait 3 grands-fils et que tous 3 étaient soi-disant partis en voyage. Et cela, précisément le jour où l'on enlevait Daubrecq. »«
Ah ah !» La coïncidence vaut la peine d'être retenue. Il est bien probable que le coup fût exécuté par ces gaillards-là et par le père.
À la fin de l'après-midi, Lupin profita d'une brèche pour escalader la courtine à droite des tours. De là, il put voir le pavillon du garde et les quelques débris de la vieille forteresse.
Ici, un pan de mur où se devine le manteau d'une cheminée. Plus loin, une citerne. De ce côté, l'arcade d'une chapelle. De cet autre, un amoncellement de pierres éboulées.
Sur le devant, un chemin de ronde borde la falaise. Et à l'une des extrémités de ce chemin, il y a les vestiges d'un formidable donjon presque rasé au niveau du sol. Le soir, Lupin retourna près de Clarisse Mergy. Et dès lors, il fit la navette entre Amiens et Mortepierre, laissant Grognard et Lebalu en observation permanente. Et 6 jours passèrent. Les habitudes de Sébastiani semblaient uniquement soumises aux exigences de son emploi. Il allait au château de Montmort, se promenait dans la forêt, relevait les passages des bêtes, faisait des rondes de nuit. Mais le 7e jour, ayant su qu'il y avait chasse et qu'une voiture était partie le matin pour la station d'Aumale, Lupin se posta dans un groupe de lauriers et de buis qui entouraient la petite esplanade devant la porte. À 2 heures, il entendit les aboiements de la meute. Ils se rapprochèrent, accompagnés de clameurs, puis s'éloignèrent. Il les entendit de nouveau vers le milieu de l'après-midi, moins distinctes. Et ce fut tout. Mais soudain, dans le silence, un galop de cheval parvint jusqu'à lui. Et quelques minutes plus tard, il vit deux cavaliers qui escaladaient le sentier de la rivière. Il reconnut le marquis d'Albufex et Sébastiani. Arrivés sur l'esplanade, tous deux mirent pied à terre, tandis qu'une femme, la femme du piqueur sans doute, ouvrait la porte. Sébastiani attacha les brides des montures à des anneaux scellés dans une borne qui se dressait à trois pas de Lupin, et en courant, il rejoignit le marquis. La porte se ferma derrière eux.